Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Dans un premier temps, j'ai été triste. Et puis avec cette tristesse est venu du courage. J'ai peur pour les gens.
L'ombre de l'extrême droite radicale derrière les deux fusillades d'hier soir en Allemagne qui ont fait 9 morts, Angela Merkel dénonce le poison du racisme.
Le procès de Reda Ham devant la cour d'assises spéciale de Paris, ce djihadiste avait prévenu lors de son arrestation en août 2015 qu'une vague d'attentats allait toucher la France et particulièrement une salle de concert.
Stupeur dans un quartier de Marseille, les habitants découvrent que l'eau de la nappe phréatique qu'ils utilisent régulièrement est toxique depuis des années.
Il y a de l'eau qui est complètement jaune fluo. Donc on se pose tout un tas de questions pour savoir quelles sont les conséquences.
Roger Federer a été opéré du genou. Le Suisse manquera donc le tournoi de Roland-Garros. Déception évidemment pour ses nombreux fans et aussi pour Guy Forget.
Bah forcément, on est déçu de ne pas revoir Roger Federer à Roland-Garros. J'imagine que c'est un petit peu un coup dur pour lui.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en repli de 0,80%. Elle termine à 6062 points.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
La tendance météo pour demain.
Eh bien, c'est une semaine qui se termine avec une journée très calme dans le ciel. Un peu plus de nuages au nord, du très beau temps au sud. C'est votre programme pour demain et je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
La piste d'un acte xénophobe est donc confirmée au lendemain des deux fusillades en Allemagne, dans la ville d'Hanau, près de Francfort.
Fusillades qui ont fait 9 morts et 5 blessés. L'un d'eux, au moins, est encore ce soir dans un état critique. L'auteur présumé de ces attaques a été retrouvé mort chez lui, à côté du corps de sa mère. Ses motivations ne font guère de doute. On va y revenir, mais d'abord écoutez l'émotion de Lennart, qui est venu tout spécialement sur les lieux du drame cet après-midi pour rendre hommage aux victimes.
Je voulais être là pour montrer aux victimes et aux familles que je suis avec eux, que je partage leur peine et que tous ensemble, nous pouvons lutter contre ça. Dans un premier temps, j'ai été triste. Et puis avec cette tristesse est venu du courage. J'ai peur pour les gens. L'un de mes amis était à côté de ce bar hier, juste avant l'attaque. À 10 minutes près, il aurait pu être au mauvais endroit. Alors oui, j'ai peur pour les gens, mais moi je n'ai pas peur. Je suis là et je ne me cacherai pas.
Des propos recueillis par Rémi Botsaron sur place à Hanau, où une veillée de recueillement à la mémoire des victimes va commencer dans quelques instants. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Allemagne. Hélène, le tueur a donc été retrouvé mort à son domicile cette nuit. À ses côtés, le corps de sa mère et des documents qui ne laissent aucun doute sur ses intentions.
Oui, sur Internet, il a laissé une vidéo de revendication et une lettre, ou plutôt un manifeste d'extrême droite, 24 pages racistes, conspirationnistes, dans lesquelles il exprime sa volonté, je cite, de nettoyer l'Allemagne des populations qui la détruisent de l'intérieur. Il parle des étrangers. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Car cela fait écho au plan d'attentat que préparait une cellule d'extrême droite démantelée il y a 6 jours seulement. Elle était composée d'une dizaine d'Allemands, que des hommes, isolés, mais qui voulaient passer à l'acte conjointement le même jour. A priori, à Hanau, la nuit dernière, l'homme de 43 ans a agi seul. Inconnu des services de police, cet employé de banque était membre d'un club de tir, détenteur d'un permis de chasse. Dans sa voiture, la police a retrouvé des munitions et un chargeur. Célibataire, il vivait avec sa mère et dans son manifeste, il a fait part aussi de sa grande frustration sentimentale et sexuelle, comme l'avait fait déjà en octobre le terroriste de Halle et avant lui plusieurs tireurs suprémacistes américains. C'est le 3e attentat d'extrême droite en Allemagne en 9 mois. Selon le ministre fédéral de l'Intérieur, la menace d'extrême droite est désormais plus grande ici que la menace islamiste.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en Allemagne. La France est aux côtés de l'Allemagne dans le combat contre la haine, dit Emmanuel Macron. En Grande-Bretagne, cette fois, un homme a poignardé à plusieurs reprises au niveau du cou un muezzin dans la mosquée centrale de Londres aujourd'hui à l'heure de la prière. Ses jours ne sont pas en danger, l'assaillant a été arrêté. Pour l'instant, le parquet antiterroriste n'est pas saisi, mais il garde un œil sur cette affaire selon la chaîne Sky News.
Lui est accusé d'avoir envisagé un attentat en France à quelques mois à peine avant l'attaque du Bataclan. Ouverture aujourd'hui du procès de Reda Ham devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Ce Français de 34 ans avait été mandaté en juin 2015 par le cerveau des attentats du 13 novembre pour s'attaquer à une salle de concert en France. Marion Dubreuil suit ce procès pour Europe 1. L'après-midi a été consacré à l'audition des enquêteurs de la DGSI afin de mieux comprendre l'importance de Reda Ham dans l'organisation État islamique.
Reda Ham n'a passé que quelques jours en Syrie. Pourtant, il a été entraîné personnellement par Abdelhamid Abaoud et renvoyé en France par le coordinateur des attentats du 13 novembre pour perpétrer une tuerie de masse. Pourquoi Abaoud a choisi un homme comme Reda Ham, qui n'a aucune expérience, ne serait-ce que dans le maniement des armes, demande la présidente, qui rappelle que l'accusé a été blessé par une grenade lors de sa formation sommaire. C'est la théorie de la fourmilière, répond le policier de la DGSI. L'enquêteur témoigne en visioconférence de manière anonyme, sa voix est modifiée. L'objectif, c'est de former un maximum d'aspirants djihadistes. En 2015, rappelle le policier, ils sont des centaines à rejoindre l'État islamique. L'accusé lui-même avait expliqué au juge d'instruction qu'Abaoud ne prenait aucun risque. Il envoyait toutes ses billes, si ça marchait, tant mieux, sinon tant pis. Son avocate rappelle surtout qu'il était le candidat idéal parce qu'il avait un passeport en règle, gage de discrétion auprès des services de renseignement. Elle ajoute que son client est revenu chez lui à une adresse connue et qu'il est resté un mois en France sans passer à l'acte, avant d'être interpellé. Pour l'enquêteur, cela ne veut rien dire. Il ajoute, Reda Ham attendait peut-être le moment opportun.
Marion Dubreuil devant la cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1.
Il est 18h06 sur Europe 1. La suite du journal Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
Les opposants à la réforme des retraites à nouveau dans la rue. Aujourd'hui, 10e journée d'action interprofessionnelle et une mobilisation modeste dans les différents cortèges.
Oui, la CGT revendique 50 000 manifestants dans les rues de Paris contre 130 000 lors de la précédente journée d'action le 6 février. Cet après-midi, le président de l'Assemblée nationale a rappelé les députés à l'ordre. Il estime qu'au rythme auquel avancent les travaux, il faudra 150 jours pour finir l'examen du texte.
Et on en parlera à 19h10 avec mon invité politique, la députée La France Insoumise, Clémentine Autain.
À moins d'un mois des élections municipales, 7 ministres et le premier d'entre eux, Édouard Philippe, dans les Vosges aujourd'hui.
Comité interministériel sur la ruralité avec cet objectif, promouvoir l'action du gouvernement dans les zones rurales.
Et à propos des municipales, coup de projecteur depuis ce matin sur Europe 1, sur la ville de Bordeaux.
Alors pendant des années à Bordeaux, il y a eu Jacques Chaban-Delmas, puis Alain Juppé, des poids lourds indéboulonnables. Cette fois, contexte bien différent pour ces municipales qui pourraient prendre une tournure assez inattendue.
Oui, en effet, si on en croit le sondage BVA pour Europe 1, il y aurait une forte percée d'Europe Écologie Les Verts, sans compter les 12% dont est crédité le candidat anticapitaliste Philippe Poutou. Bonsoir Stéphane Place.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct de Bordeaux. Stéphane, la vraie nouveauté, hein, c'est cette perspective d'un deuxième tour.
Oui, vous le disiez à l'instant, Chaban, puis Juppé, et depuis 1947, un scénario qui ne comprenait qu'un épisode. Un seul tour de scrutin. Alors la perspective d'une quadrangulaire bouscule les habitudes de cette bordelaise.
Oui, oui. Ah bah oui, mais ça devait être bien commode, surtout quand ça marchait bien, quoi. Quelqu'un d'important, c'était bien commode.
Oui, bien commode, mais deux tours, c'est surtout un débat local plus riche, disent ces deux autres électrices.
Plusieurs candidats avec des programmes qui vont être différents, on va avoir une vraie discussion.
Effectivement, pendant 30 ans, Chaban-Delmas et ensuite Juppé, c'était comme une évidence. Il n'y a pas que des bons côtés. Donc tant mieux s'il y a un deuxième tour, et puis ça permet aussi de faire bouger un peu les choses.
Deux tours de scrutin, c'est aussi une campagne électorale très différente, explique le politologue bordelais Jean Petaut.
C'est effectivement pas du tout la tradition locale, au point que l'équipe sortante n'a pas la culture du deuxième tour. Il y a la nécessité d'apprendre aussi comment on peut se comporter dans une campagne de premier tour, dans une campagne de deuxième tour. Effectivement, on inaugure cette pratique, qui est presque une grande avancée démocratique à Bordeaux, qui va être un deuxième tour.
On a toujours dit Bordeaux, parce qu'il y avait eu Chaban, parce qu'il y avait Juppé, ne saura se donner qu'à un homme de stature nationale. C'est fini ça.
Dans le quatuor qui est constitué, le seul qui est vraiment connu de stature nationale, c'est Philippe Poutou.
Et Philippe Poutou qui a déjà annoncé qu'il comptait bien se qualifier et se maintenir au second tour, tout comme le marcheur Thomas Cazenave qui, d'après notre sondage, réunirait aujourd'hui 11% des suffrages.
Merci Stéphane Place, en direct de Bordeaux pour Europe 1.
Et on va y revenir en détail avec les grandes voix, bien sûr, sur ce sondage Europe 1 BVA. La directrice opinion de BVA sera avec nous pour le commenter. À Paris, en revanche, les sondages se suivent et se ressemblent pas forcément. On vous parlait d'hier d'un sondage qui mettait Rachida Dati en tête. Cette fois, c'est dans un sondage Ipsos. C'est Anne Hidalgo qui est en tête. Rachida Dati, Agnès Buzyn au coude à coude. La candidate de La République En Marche a reçu aujourd'hui le soutien de Gaspard Ganzer qui renonce à sa propre candidature. L'ancien communicant de François Hollande qui était crédité d'un peu plus d'1% des intentions de vote.
Europe 1. Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
À suivre dans votre journal de 18h à Marseille. Depuis des années, les riverains du quartier Saint-Louis arrosent leurs légumes et remplissent leurs piscines avec de l'eau toxique et cancérigène.
Et puis Roland-Garros, cette année ce sera sans Federer.
Deux heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Europe 1. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
Et direction Marseille, où une pollution historique inquiète les riverains dans le quartier Saint-Louis. L'eau de la nappe phréatique est toxique.
Et oui, une eau avec laquelle les Marseillais arrosent leur potager, notamment. Elle est toxique et cancérigène. Alors heureusement, cette pollution ne concerne pas le réseau d'eau potable. Il n'empêche la colère gronde, car la mairie de Marseille était, semble-t-il, au courant. Elle a mis des années avant d'agir. Nathalie Chevance, colère donc, d'autant que cette pollution est, semble-t-il, très ancienne.
Oui, et pendant des années, sans le savoir, Christophe a arrosé ses plantes et surtout son potager, ses tomates, ses aromates, avec une eau contaminée, celle de son puits, qu'il utilisait aussi pour la piscine gonflable, une eau qui aujourd'hui sort de cette couleur.
Il y a de l'eau qui est complètement jaune fluo. Donc on se pose tout un tas de questions pour savoir si on est en danger, si ma fille qui a mangé des fruits, des légumes est en danger aussi. Quelles sont les conséquences? Sachant qu'aussi que pendant l'été, on a rempli un bassin et elle s'est baignée dedans. Pourquoi la préfecture et la mairie ont mis tant de temps à mettre des arrêtés?
Qu'est-ce que vous ressentez, monsieur?
De l'incompréhension.
D'autant que cette pollution partie d'une usine de traitement de métaux était connue depuis 2013 et aujourd'hui, les eaux souterraines sont toujours polluées au chrome, dénonce Charles Chanu, épidémiologiste, membre de l'association Cap au Nord.
Le chrome 6 ou chrome hexavalent, c'est quelque chose qui est créé par les processus industriels, classé comme cancérogène dans la catégorie des plus actifs. En 2017, le dernier dosage, il y a encore 40-50 mg selon les endroits où on va la mesurer. 4 à 500 fois plus, et ça on l'apprend qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une négligence, un j'en foutre, il y a quelque chose qui est très grave pour la santé publique.
Au point que le député des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, demande au ministre de la Santé une enquête épidémiologique.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille.
Les spectateurs de Roland-Garros seront privés de Roger Federer cette année.
Oui, parce que le Suisse a été opéré du genou droit. Corinne Boulot, il sera donc absent plusieurs mois et il ne participera pas au tournoi parisien sur terre battue.
Oui, c'est une annonce surprenante. Roger Federer avait atteint le dernier carré de l'Open d'Australie, certes diminué par une douleur aux adducteurs, mais comme il l'a expliqué ce matin sur les réseaux sociaux, c'est son genou droit, cette fois, douloureux, qui a été opéré hier en Suisse. Il est donc contraint de faire une croix sur Dubaï, Indian Wells, Miami et donc Roland-Garros, seul tournoi sur terre battue qu'il avait programmé. Alors évidemment, c'est un regret que Guy Forget, le directeur du tournoi parisien du Grand Chelem, enregistre ce forfait.
Bah forcément, on est déçu de ne pas revoir Roger Federer à Roland-Garros. On se souvient de son parcours l'année dernière en demi-finale. Les voyants étaient plutôt au vert. J'ai eu un coup de téléphone de son agent ce matin qui m'a dit qu'il était opéré hier d'une arthroscopie. Alors, c'est pas une intervention très complexe, hein, mais effectivement, il a déjà eu ça par le passé. J'imagine que c'est un petit peu un coup dur pour lui. Je suis convaincu qu'on verra Roger sur les terrains dans quelques semaines, peut-être sur gazon, en tout cas dans les mois à venir.
À 38 ans, sa présence sur la terre battue parisienne devient hypothétique à l'avenir. En attendant, l'actuel numéro 3 mondial donne rendez-vous effectivement à ses supporters sur herbe à Wimbledon, dans son jardin anglais en juin, avant ses 5e et derniers Jeux Olympiques à Tokyo cet été.
Merci Corinne Boulot, spécialiste tennis, notamment d'Europe 1. Et puis la mort d'un homme qui a consacré sa vie au journalisme, Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Observateur, s'est éteint à l'âge de 99 ans. Emmanuel Macron salue une conscience et un monument du journalisme. Jean Daniel était également une grande voix d'Europe 1. En 1992, dans l'émission Pile ou Face, interviewé par Jean-Pierre Elkabbach, il revenait sur son parcours et surtout sur ses rencontres.
L'admiration donne un sens à la vie, parce que dans les moments de désespoir, si vous avez quelqu'un auquel vous pouvez vous arrimer du point de vue de l'espérance, même si vous doutez de la vie, vous arrivez à ne pas douter d'un être. Quelquefois, on doute que la vie ait un sens, et puis il y a des êtres qui donnent un sens à la vie.
Je vais vous dire, au moment où les règles de notre métier sont malmenées, et même
elles sont très malmenées,
et bafouées,
très.
Eh ben moi, j'aime, et avec quelques-uns dans cette maison, j'aime à reconnaître en vous, Jean, et d'une certaine façon un modèle. Ça vous fait peut-être rougir, mais je vous le dis.
Ben, je préfère que vous terminiez là-dessus.
L'hommage de Jean-Pierre Elkabbach à Jean-Daniel sur Europe 1, c'était en 1992.
Ouais, pendant plus de 50 ans, il avait un alter ego, un compagnon de route. Jean-Daniel, bien, c'est Claude Perdriel. C'est avec lui qu'il a cofondé le Nouvel Observateur. Claude Perdriel est avec nous ce soir pour nous raconter cette histoire. Il est mon invité juste après la météo d'Anissa. Merci Isabelle Millet. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres.